Il est midi et demi sur France Culture. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 5 jours après le violent incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, la population s'inquiète toujours des conséquences sanitaires et écologiques possibles de la catastrophe, en dépit des messages qui se veulent rassurants des pouvoirs publics. Et puis de nombreuses questions demeurent également quant à l'origine de cet incendie.
Dans votre journal également, la Cour de justice de la République a décidé de juger l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ex-ministre de la Défense, François Léotard, dans le volet financier de l'affaire Karachi.
Oui, les deux hommes sont renvoyés pour complicité d'abus de biens sociaux dans cette affaire de possible financement occulte de la campagne présidentielle de 1995. À l'étranger, nous irons tout d'abord en Chine. Depuis ce matin, la République populaire se livre à une véritable démonstration de force avec un défilé militaire record à l'occasion du 70e anniversaire du régime communiste. Autant de célébrations défiées à Hong Kong par des manifestants pro-démocratie qui, eux, ont promis de gâcher la fête du pouvoir central. Et puis, nous irons également au Pérou. La confusion politique règne après que le Parlement, dont le chef de l'État avait pourtant prononcé hier la dissolution, a décidé de riposter ce matin en suspendant le président pour un an. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes aujourd'hui, Pascal Pavageau, ex-secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La grande muette, on sait que c'est pas facile d'enquêter au cœur de l'armée française aujourd'hui. Elles l'ont fait, elles ont pourtant récidivé avec une nouvelle enquête signée par les journalistes Leila Mignano et Justine Brabant, nos deux invités, sur les nouvelles recrues de l'armée française qui ont été la cible de ces campagnes de recrutement de l'armée au lendemain des attentats de 2015. Qui sont-ils? Elles nous en parleront.
Merci et à tout à l'heure. Après que 4 de ses ministres eurent déjà fait le déplacement à Rouen pour tenter en vain de convaincre une population toujours plus inquiète que les odeurs, certes gênantes, ne sont pas pour autant nocives, c'était au tour d'Édouard Philippe de venir sur place hier pour non seulement défendre l'action de son gouvernement, mais aussi y assurer devant l'usine chimique Lubrizol que la qualité de l'air n'est pas en cause. Sauf que depuis 5 jours, force est de constater que la cohorte des officiels sur les lieux de la catastrophe aura surtout produit l'effet inverse en alimentant davantage encore la suspicion. Hier soir, au cri de « on veut la vérité, on ne veut pas crever », plusieurs centaines de citoyens ont bruyamment manifesté leur inquiétude devant la salle où se tenait le conseil métropolitain en présence du préfet avant d'être repoussé par la police. Enfin, aujourd'hui encore, à partir de 18h, au départ du palais de justice de Rouen jusqu'à la préfecture, plusieurs associations, ONG et syndicats ont également prévu de faire part de leur colère autant que de leur anxiété et de réclamer surtout la vérité concernant cet incendie. Claire Flochel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ce matin, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a indiqué que les résultats d'analyse sur les suies et pollutions seront publiés demain ou après-demain. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, sera elle auditionnée demain par la Commission du Développement Durable de l'Assemblée. Mais en attendant, Claire, riverain comme élu d'ailleurs, continue donc de s'interroger sur les conséquences possibles de cette catastrophe.
Et les inquiétudes sont notamment alimentées par les réseaux sociaux. De nombreuses images y circulent. On y voit de l'eau brune ou noire couler des robinets dans des salles de bain ou des cuisines de l'agglomération de Rouen. Mais les autorités indiquent qu'il s'agit de cas particuliers et démentent tout problème sur le réseau de distribution d'eau après l'incendie de Lubrizol. Des interrogations plutôt légitimes car la liste des produits qui se trouvaient sur le site n'a toujours pas été rendue publique. Mais le directeur de l'usine, Laurent Bonvallet, assure chez nos confrères de France Info avoir communiqué cette liste à l'administration.
Les produits qui sont stockés sont des hydrocarbures qui sont adjuvantés pour entrer dans la constitution d'huile de moteur principalement. Ce sont des produits qui ont un certain niveau de toxicité mais qui est tout à fait contrôlé. Nous travaillons en totale transparence avec les services de l'État et la liste est connue et elle a été diffusée auprès des instances qui nous l'ont demandé.
Afin que le grand public puisse également savoir exactement ce qui était dans l'usine et ce qui a brûlé, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, a déposé un référé constat devant le tribunal administratif de Rouen au nom de l'association Respire et de 100 citoyens habitants de Rouen et de leur agglomération. Écoutez-la.
La difficulté vient de ce que très récemment, l'État a autorisé une extension très importante du stockage de produits dont certains sont à toxicité aiguë. C'est pas une certaine toxicité, toxicité aiguë. Et donc, il faut savoir si ces produits étaient bien sur le site, s'ils ont brûlé, s'ils n'ont pas brûlé. Parce que quand on sait les produits, on sait ce que cela peut émettre.
En effet, malgré le classement Céveso, la préfecture a autorisé en janvier dernier l'augmentation des quantités de substances dangereuses utilisées à Lubrizol. Cette décision n'a été soumise à aucune évaluation environnementale. Une mesure scandaleuse sur laquelle le gouvernement doit revenir, selon le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot.
Merci Claire Flochel. Et puis au-delà des risques sanitaires, s'agissant cette fois-ci de l'origine de l'incendie, voilà qu'on a appris hier que l'usine Lubrizol avait décidé de porter plainte contre X pour dégradation involontaire de biens par explosion ou par incendie. Selon la directrice générale de l'entreprise, laquelle dit disposer d'images, de vidéosurveillance et de témoins oculaires, le feu se serait déclaré à l'extérieur du site. Alors pour l'heure, le Premier ministre lui dit n'avoir aucune information pour indiquer quelle hypothèse serait juste ou erronée. Toujours est-il que l'ancien directeur général adjoint de l'entreprise, Gérard Prieur, 77 ans aujourd'hui, dont près de 35 années de bons et loyaux services à Lubrizol, juge en effet incompréhensible aujourd'hui cette catastrophe. Pourquoi ? Élément de réponse avec Thibault Lefebvre.
Dès qu'il prend connaissance de l'incendie, Gérard Prieur élimine l'hypothèse d'une explosion accidentelle à l'intérieur de l'usine.
Statistiquement, c'est pas possible.
Car il existe en France au moins une centaine de hangars de stockage de produits inflammables qui sont, comme ceux de Lubrizol, très bien protégés. Et jamais dans l'histoire industrielle récente, un système anti-incendie de type sprinkler n'a failli.
C'est un système automatique. À partir du moment où il y a une certaine chaleur à l'intérieur du bâtiment, il y a un déluge d'eau qui s'abat sur la zone qui est la plus chaude. Ça a dû se passer à l'extérieur du bâtiment. C'est ça qu'il faut arriver à déterminer.
L'ancien ingénieur continue alors son enquête. Elle se poursuit dès le lendemain de la catastrophe sur Internet et notamment sur YouTube.
Il y a quelque chose qui m'a particulièrement étonné. C'est une vidéo qui montre trois explosions successives. C'est ce qui se passe quand vous avez un hydrocarbure et de l'air. Ça peut être un camion citerne sous lequel on fait un feu, par exemple. Vous obtiendrez un truc comme ça. Nous sommes sur l'hypothèse de quelque chose que personnellement je ne comprends pas.
Gérard Prieur n'est pas le seul à être déboussolé. Dans le plan de prévention des risques technologiques de Lubrizol approuvé il y a 5 ans, l'hypothèse d'un incendie sur les hangars de stockage a été qualifiée, je cite, d'extrêmement improbable.
Un mois de prison avec sursis. Hier, l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a été reconnu coupable de violation du secret pour avoir transmis des informations confidentielles au député des Hauts-de-Seine, Thierry Solaire. C'était en 2017. Une peine beaucoup plus clémente que celle requise 3 jours plus tôt par l'accusation. Pour autant, Jean-Jacques Urvoas n'en demeure pas moins le premier garde des Sceaux à être ainsi condamné par la Cour de justice de la République. Et en l'absence de possibilité d'appel, il dispose désormais de 5 jours pour se pourvoir en cassation. Et puis c'est également devant cette même juridiction controversée, mi-judiciaire, mi-politique, qu'Edouard Balladur et François Léotard vont être jugés dans le volet financier de l'affaire Karachi. Alors de quoi s'agit-il ? L'ancien Premier ministre et son ex-ministre de la Défense sont soupçonnés d'avoir mis en place un circuit opaque au cœur de contrats d'armement signés avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Un système de rétrocommission illégale qui aurait pu servir en partie à financer la campagne d'Edouard Balladur, candidat malheureux à la fonction suprême en 95. Mais plus que tout, ce circuit opaque pourrait donc aussi être lié à l'affaire Karachi, laquelle doit son nom, je vous le rappelle, à cet attentat du 8 mai 2002 qui avait fait 15 morts, dont 11 employés français de la direction des chantiers navals qui tous travaillaient à la construction d'un sous-marin vendu au Pakistan. Les précisions de Florence Turm.
Cette décision de renvoi est conforme aux réquisitions du procureur général, mais il aura fallu des années avant que ce dossier n'arrive en justice. 3-2-1-0. Cette décision de renvoi est conforme aux réquisitions du procureur général, mais il aura fallu des années avant que ce dossier n'arrive en justice. C'est ce que l'on appelle le volet financier de l'affaire Karachi, relatif au financement de la campagne présidentielle de 1995. Édouard Balladur, qui était alors Premier ministre, est soupçonné d'avoir utilisé près de 2 millions d'euros de commissions occultes versées dans le cadre de contrats d'armement avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. François Léotard d'avoir mis en place ce circuit opaque. Les juges en ont acquis la conviction en creusant l'hypothèse d'une piste terroriste de l'attentat, mais il aura également fallu une plainte des familles de victimes en 2009, rappelle leur avocat Olivier Maurice.
Sans la plainte des familles des victimes dans cette affaire, il n'y aurait jamais eu de procès, ni devant le tribunal correctionnel de Paris, ni devant la Cour de justice de la République. Ce sont donc les familles qui ont porté le fer et porté cette action pour que on puisse connaître la vérité, et notamment sur le financement de la campagne de M. Édouard Balladur. C'est donc aujourd'hui une certaine satisfaction et en même temps le regret qu'il ait fallu que ce soit les familles des victimes qui puissent agir pour que la justice avance dans le cadre de cette affaire.
Il y aura donc deux procès. Le premier débute la semaine prochaine devant le tribunal correctionnel de Paris. Il concerne notamment les directeurs de cabinet d'Edouard Balladur et François Léotard, ainsi que l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine. Par ailleurs, l'enquête terroriste continue depuis 2009 d'explorer la thèse d'un attentat organisé en représailles après l'arrêt des versements de ses commissions. Jacques Chirac avait décidé d'y mettre un terme après sa victoire à la présidentielle. Mais cette hypothèse, qui s'appuie sur des rapport révélé en cours d'instruction, n'a jamais été confirmé.
C'est aujourd'hui que la Cour de cassation doit rendre sa décision sur l'ultime recours de Nicolas Sarkozy pour échapper à son procès pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012, telles que révélées par l'affaire Big Malion. Au total, 7 prévenus ont formé des pourvois, dont l'ancien président, lequel soutient qu'il ne peut pas être jugé pour ce dépassement, au motif qu'il a déjà été sanctionné définitivement en 2013 par le Conseil constitutionnel. La Chine a donné ce matin le coup d'envoi des célébrations de son 70e anniversaire avec un défilé colossal, l'un des plus gigantesques jamais vus à Pékin. 15 000 soldats au total, des centaines de chars, de missiles et autres avions de combat. Une véritable démonstration de force destinée à faire vibrer la fibre patriotique, mais aussi affirmer le pouvoir du président Xi Jinping sans précédent depuis celui d'un certain Mao Tse-tung. Enfin, cette parade, la plus vaste de l'histoire de la République populaire, devra bien entendu promouvoir une image d'unité nationale au moment même où le pays fait face à plusieurs défis grandissants, premier rang desquels le conflit commercial avec les États-Unis, sans oublier le mouvement de contestation à Hong Kong. Et d'ailleurs, à 2000 km au sud de Pékin, les manifestants qui défilent depuis près de 4 mois contre le régime communiste entendent bien profiter de ces célébrations pour crier plus fort encore leur ressentiment contre le pouvoir central, et c'est ainsi qu'ils ont eux-mêmes appelé ce mardi une journée de colère baptisée une journée du chagrin. C'est une correspondance signée Dominique André.
Dans la tribune, aux côtés des dirigeants chinois, le visage de Carrie Lam, la chef de l'exécutif local de Hong Kong, apparaît rapidement à la télévision officielle qui retransmet en direct les cérémonies dans toute la Chine. La présence à Pékin, place Tiananmen, de Carrie Lam est signalée mais sans trop s'apesantir au moment où des manifestants sont en train de se rassembler dans les rues de Hong Kong. Xi Jinping, imposant dans son costume Mao sombre, sait que tout le monde attend ses déclarations sur l'ancienne colonie britannique qui défie son pouvoir depuis plus de 3 mois.
Nous avançons sur notre chemin pacifique de l'unité du territoire et nous allons continuer à appliquer de façon totale et sincère le principe un pays, deux systèmes et nous agirons en stricte conformité avec la Constitution et la loi fondamentale hongkongaise.
Ce n'est pas une concession de la part du président chinois qui rappelle depuis le début qu'il respecte ses engagements législatifs. Mais à 3 heures d'avion de Pékin, le face-à-face avec le régime chinois est de plus en plus violent. On voit aujourd'hui des manifestants à Hong Kong porter le célèbre masque noir et blanc à la fine moustache et au sourire ironique des Anonymous, déjà aperçus de nombreuses fois dans des manifestations à travers la planète. Ils symbolisent le combat de ceux qui veulent un changement politique, violemment s'il le faut. La nuit s'annonce incertaine à Hong Kong.
Combien de victimes fera l'affaire ukrainienne qui vaut désormais à Donald Trump d'être menacé de destitution après que l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine a donné sa démission? Hier, c'était au tour du conseiller légal personnel du président et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, d'être assigné à comparaître par le Congrès. Vendredi dernier déjà, les parlementaires démocrates avaient sommé le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, de leur livrer des documents nécessaires à leur enquête. Enfin, d'autres échanges téléphoniques pourraient encore venir hanter Donald Trump, selon la presse américaine. Le locataire de la Maison-Blanche aurait ainsi demandé, lors d'un récent échange au Premier ministre australien, d'aider son ministre de la Justice à rassembler des informations permettant de discréditer l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Toujours est-il que Piquet au vif est conscient que ces nouvelles révélations pourraient avoir un impact sur la prochaine présidentielle. Donald Trump multiplie depuis les attaques, allant même jusqu'à suggérer de faire arrêter un élu démocrate pour trahison. Enfin, la surenchère ne devrait pas s'arrêter en si mauvais chemin, puisque selon un un nouveau sondage, 47% des personnes interrogées estiment aujourd'hui que le président américain devrait être destitué. Un jour noir pour les libertés au Maroc. Hier, la justice a décidé de sanctionner la journaliste de 28 ans, Hajar Ressouni, arrêtée le 30 août dernier et poursuivie pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Elle a été condamnée à un an de prison ferme par le tribunal de Rabat, une affaire qui aura suscité l'indignation à l'étranger, mais aussi dans le royaume. C'est une correspondance de Théa Olivier.
Le verdict est tombé après 6 heures d'attente. Les proches et les militants des droits humains qui étaient présents dans la salle d'audience ont attendu la mine grave et le regard anxieux. Une fois le verdict annoncé, certains ont fondu en larmes, d'autres ont crié le nom de Hajar, les bras tendus et les doigts en V. La jeune journaliste de 28 ans a repris le même signe à sa sortie du tribunal, avant de monter dans le véhicule des forces de l'ordre qui l'a amenée en prison. Un signe adressé à ses proches et aux journalistes de l'autre côté du grillage, qui étaient capturée par les photographes. Depuis, l'image de Hajar Ressouni, grand sourire avec son fiancé derrière, menotté et les mains levées en signe de résistance, fait le tour des réseaux sociaux. Sur Internet, les Marocains étaient sous le choc et ont exprimé leur soutien dès hier soir. Mais devant le tribunal, aucune manifestation de solidarité ne s'est mobilisée. Pourtant, l'affaire fait polémique au Maroc. Ses proches et avocats dénoncent un procès politique lié à sa famille, à ses opinions et au journal dans lequel elle travaille. Le collectif des 490 hors la loi a aussi publié un communiqué dès hier soir alors qu'il n'était pas officiellement présent au procès. Il dénonce une situation d'hypocrisie où l'application de lois pénalisant les relations sexuelles hors mariage et l'avortement ne répond qu'à la logique de l'arbitraire. Il appelle de nouveau à l'abrogation de ces lois jugées liberticides. En attendant, la défense a déjà prévu de faire appel de ce verdict.
Au Pérou, le bras de fer entre le président et le Congrès vient d'atteindre de nouveaux sommets. Hier, après que Martín Vizcarra a dissous le Parlement, ce dernier, dominé par l'opposition Fujimoriste, laquelle en dégringolade dans les sondages redoute la perspective d'élections anticipées, a aussitôt répliqué en suspendant le chef de l'État et en demandant à la vice-présidente d'assumer le pouvoir. Les explications à Lima de notre correspondant Eric Sanson.
Face au blocage qu'il oppose à la majorité d'opposition du Congrès, cela fait des mois que le président Vizcarra cherche le moyen de provoquer des élections générales anticipées en 2020. Peu soucieux de perdre leur immunité parlementaire, les députés de la majorité fujimoriste ont archivé le projet de loi la semaine dernière. Ce lundi, ils ont refusé d'examiner la question de confiance présentée par le Premier ministre, provoquant la réaction du président Vizcarra.
Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer d'avancer de manière concertée avec le Parlement. Malheureusement, il est évident que l'obstruction des députés n'a pas cessé ni ne cessera pour défendre la corruption enquistée dans l'État. J'ai donc décidé constitutionnellement de dissoudre le Congrès et de convoquer des élections législatives anticipées.
Les députés d'opposition n'ont pas tardé à répliquer. Ils ont suspendu pendant un an pour incapacité temporaire le président Vizcarra, accusé d'avoir rompu l'ordre constitutionnel. Opposé à la décision du chef de l'État de provoquer des élections générales anticipées, la vice-présidente Mercedes Araos a accepté d'assumer le pouvoir. Il y a donc aujourd'hui 2 présidents au Pérou et une énorme crise politique.
Sa voix somptueuse de soprano s'est définitivement éteinte hier. La légendaire cantatrice américaine Jessi Norman, dont beaucoup retiendront notamment l'image drapée en tricolore place de la Concorde lors de son interprétation de la Marseillaise lors du bicentenaire de la Révolution, est décédée à New York des suites d'une septicémie. Elle était âgée de 74 ans. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Pascal Pavageau, ex-secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, à l'occasion de la sortie d'un livre coécrit avec Laurent Neumann, Allô Jupiter, ici la Terre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Première question, Pascal Pavageau, il y a un an vous quittiez donc Force Ouvrière après des révélations sur un fichier affublant de qualificatifs peu amène, disons, et parfois même injurieux des cadres du syndicat. On y reviendra un peu plus tard, mais d'abord un mot sur l'actualité, la réforme en l'occurrence des retraites. On arrive dans la séquence grand débat. Emmanuel Macron va lancer après-demain à Rodez cette consultation des Français sur la réforme qui entend donc créer un régime de retraite par points. Est-ce que selon vous c'est la bonne méthode ?
Bah, la bonne méthode eût été d'interroger et de questionner avant d'annoncer qu'on va changer le jeu. Or, il a été décidé de façon unilatérale de dire tout ce qui a été fait depuis 45 et qui a protégé, qui a construit un modèle réellement, lui, universel et collectif, nous l'abandonnons et nous décidons de façon unilatérale de Jupiter, comme on le met dans le livre, une logique de retraite par points. Le problème de la retraite par points, c'est que vous changez intégralement les règles du jeu, puisque maintenant, chaque minute non travaillée, c'est des points en moins. Donc individuellement, il faut aller chercher ces points à longueur de temps, sans jamais s'arrêter de travailler, pour espérer potentiellement avoir une micro-retraite à la fin. Moi, j'avais dit à l'époque, et je le maintiens encore aujourd'hui, la logique de retraite par points, c'est le travail sans fin, en permanence, vers l'infini et au-delà, comme disent certains, alors que notre système actuel, c'est l'acquisition de droits en fonction des trimestres sur lesquels on a travaillé. Et ces droits, dans ces cas-là, ben on les garde et c'est une sorte de clapet en tire-tout. Alors que là, en permanence, dès que vous arrêtez de travailler, votre sac se vide de points et il faut retourner au charbon pour essayer d'en avoir en permanence. Donc la bonne méthode eût été de commencer par le dialogue et d'échanger avec que ce soit les citoyens, les corps intermédiaires et d'une manière générale l'ensemble des institutions.
Question d'Alain
Genet. On a donc aujourd'hui ce régime par points qui vous déplaît, même si vous plaidez pour malgré tout une convergence des régimes vers une retraite commune avec des droits peut-être amplifiés. D'ailleurs, en prenant davantage en compte notamment la pénibilité. Oui. Face à ça, en tout cas, face à cette réforme, on a aujourd'hui une mobilisation en ordre dispersé des syndicats, CGT d'un côté, Force ouvrière de l'autre, pour leur première journée d'action. Vous le déplorez ou vous le comprenez? Vous auriez fait la même chose?
Je l'ai toujours déploré et je reste un militant Force ouvrière. Et de ce point de vue-là, évidemment, seule l'unité d'action, à un moment donné, peut faire masse, peut faire poids pour à la fois montrer notre position ou l'opposition de cette destruction d'un cadre collectif. Et en même temps, faire des propositions. Je pense que sur ces deux points-là, les organisations syndicales sont attendues et je pense que l'immense majorité des adhérents et des militants de l'ensemble des centrales syndicales attendent cette unité, tant pour dire leur opposition à ce principe, à la destruction, mais aussi qu'est-ce que nous pouvons contre-proposer, qu'est-ce que nous pouvons proposer pour que le modèle évolue, parce qu'effectivement, nous ne sommes plus dans la situation de 45, et c'est pour ça que dans le livre avec Laurent Neumann, on fait quelques propositions qui gardent les valeurs historiques, qui gardent les principes historique, mais qui montre qu'on peut avoir un autre modèle, je dirais garder les paramètres, mais tout en faisant évoluer le système.
Alors justement, c'est des propositions que vous auriez pu faire à la tête de Force ouvrière. Vous
non, je n'aurais pas pu faire à la tête de Force ouvrière, justement, et aujourd'hui que je peux faire.
Et que vous pouvez faire maintenant. Vous auriez pu, dans un, voilà, peut-être un monde idéal pour vous, en tout cas, vous n'avez donc été que 6 mois à la tête de Force ouvrière. Vous revenez au début de votre livre sur ce qui a conduit à votre démission le 17 octobre 2018. On rappelle rapidement les faits. Le 10 octobre, le Canard enchaîné révèle une liste constituée 2 ans plus tôt par vos proches, une centaine de cadres de FO y sont affublés de qualificatifs. On peut ainsi lire en face de certains noms niais, complètement dingue, franc-maçon, homosexuel. Une erreur absolue, hein, dites-vous, mais sans volonté de nuire. Quel était d'abord l'intérêt de constituer un tel fichier ?
L'idée était, vous l'avez rappelé, on est en septembre 2016, dans un contexte de pression interne qui est extrêmement violent et extrêmement fort, et l'idée était de commencer à constituer une équipe de dirigeants nationaux pour 2 ans après, c'est-à-dire le moment de 2018, le moment de mon élection. Le choix que j'avais fait, c'était de prendre des militants de l'organisation qui ne soient pas des responsables nationaux de Force ouvrière, et il fallait les informer, les former sur le nid de guêpe dans lequel ils allaient mettre les pieds, ou les nids de frelons dans lequel ils allaient mettre les pieds. Et donc de ce point de vue là il y avait une information de ce qu'est globalement ou ce que sont globalement l'ensemble des responsables nationaux. Donc l'erreur absolue, la faute et la stupidité, c'est pour gagner du temps, parce que tous ne sont pas parisiens, sur la petite poignée concernée, c'est d'avoir mis par écrit 2-3 éléments d'annotation ici ou là et d'avoir
envoyé... Mais vous ne regrettez pas les qualificatifs en tant que tels ?
Mais je regrette les qualificatifs comme je regrette la méthode. Maintenant, après, à l'oral, vous pensez bien que l'explication ne se résume pas à un qualificatif totalement abrupt. Lorsque, par exemple, vous rappelez que sur une personne, il est signifié homosexuel, c'est justement pour dire toute la difficulté qui est la sienne dans cette organisation, dont un certain nombre de responsables sont clairement homophobes, d'arriver à pouvoir s'imposer, d'arriver à pouvoir mener un parcours militant et syndical, et qui fait justement que cette personne-là fait partie, parce que ça l'a construit de façon libre et indépendante et fait partie des gens que j'ai sollicités pour pouvoir rejoindre l'équipe nationale.
Alors donc effectivement là, vous insistez sur dans le livre que vous aviez été blessé, hein, que ce qualificatif homosexuel ait pu être interprété différemment. En tout cas, Pascal Pavageau, pourquoi ça sort? Qui vous en veut à ce moment-là?
C'est assez simple. Ça sort 2 ans après parce qu'à un moment donné, on a mis des règles, on a commencé à vouloir faire un audit financier, on a commencé à vouloir gérer et manager cette organisation qui est dans une situation désastreuse telle que ben moi je le découvre après mon élection en avril 2018. C'est une situation totalement ubuesque sur le plan financier avec aucune règle et aucun élément de gestion. Rien que la masse salariale du siège de la Confédération FO est 30% supérieure aux recettes propres financières de la Confédération. J'annonce un audit financier et il m'est dit clairement autour d'octobre en disant écoute, tu restes, mais ton audit financier c'est terminé, tes règles c'est terminé, ton projet d'ouverture, celui qui a été voté par le Congrès, c'est terminé, et quant à l'intégralité de ton cabinet, tu les dégages.
Donc voilà, vous êtes contraint à un moment de devoir partir de FO puisque...
Je choisis de partir dans ces conditions-là.
Voilà, dans ces conditions-là et aujourd'hui...
Ils ont pris en hold-up, une quinzaine de personnes a pris en hold-up cette organisation depuis plusieurs années. Je le regrette pour les 350 000 militants.
Voilà, et pour le reste, j'invite donc les auditeurs à lire votre ouvrage coécrit avec Laurent Neumann, Allô Jupiter, ici la Terre. Merci Pascal Pavageau,
ex-secrétaire
général du syndicat Force Ouvrière, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également Anne-Laure Jumet. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Les pluies de la matinée continueront de traverser le pays d'ouest en est avec des orages attendus des Pyrénées vers les Alpes ainsi que sur la Bourgogne et le Grand Est. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.